Tout de suite, place du marché avec Vincent Ferniaud, émission enregistrée vendredi.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, amici, bienvenue place du marché dans cette période difficile pour notre pays. Pour l'Europe, pour l'humanité tout entière certainement, qualifiée par Emmanuel Macron de crise sanitaire sans précédent jeudi soir. Et alors que dès demain, nos enfants seront à la maison, se pose le problème du confinement volontaire ou forcé. Et bien évidemment, celui de notre alimentation dans ces temps troublés. Aujourd'hui, je pense à ceux dont la vie de tous les jours est plus impactée que la nôtre depuis une semaine, nos amis italiens. Voilà pourquoi je leur dédie cette émission que j'ai dénommée « L'Italia a casa ».
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Alors autour de moi, cuisinières et cuisiniers italiens qui officient en France, qu'ils ont de la chance en ce moment hein, par rapport à leur famille et à leurs amis. J'ai nommé Simone Zanoni, le chef du restaurant Le Georges, restaurant étoilé du Four Seasons Georges V à Paris. Bonjour Simone.
Bonjour, comment va?
Écoutez, jusque-là, ça va pas mal. Hein. Denis Imbrosi à côté de vous, le chef de Ida et Epoca. Bonjour Denis.
Ciao ragazzi.
Oh, c'est bien, ça sonne bien déjà. Laura Zavan, qui est auteur de livres et excellente cuisinière. De livres gastronomiques, bien sûr. Bonjour Laura.
Bonjour à tutti.
Bonjour. Et enfin, Laure Souge, qui est responsable produit de la grande marque de tomates en boîte Mouti. Bonjour Laure.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, la première question que je me pose aujourd'hui, et je vous la pose à vous, mesdames et messieurs, on va commencer par Laura. Comment se porte votre famille? Comment ça va en Italie?
Tout le monde fait avec. Hein. Maintenant, ils sont très, voilà, ils suivent les consignes, les Italiens.
Bon,
avant,
pas...
c'était un peu, voilà, pas du tout. Et maintenant, voilà,
ils
savent
qu'ils
doivent
obligé.
Bien rester à la maison.
Je vous demande simplement, pas de gens touchés chez vous par le corona, dans vos familles, dans vos proches,
non.
À ce jour, écoutez, tant mieux. Hein. Je touche du bois, oui, knock on wood. Alors, effectivement. Alors, je vous demandais ça parce que l'Italie est vraiment bloquée. Hein. Toutes les images qui nous parviennent en France, c'est des rues vides, des magasins fermés. Je n'ose même pas parler du tourisme, hein. Hôtellerie, restauration. D'ailleurs, le président Macron, jeudi soir, il a dit dans la liste des commerces et des entreprises touchées, le premier, c'était les restaurateurs. Comment ça va dans vos restaurateurs, dans vos restaurants, Denis?
Pour l'instant, je touche du bois, comme tu as dit, mais ça va plutôt bien, espérant qu'à
ici,
partir de lundi, à partir de demain, en fait, vu que les écoles sont fermées, en espérant d'avoir encore des clients. Quoi. Mais pour l'instant, ce week-end a été plutôt bien.
Et vous aussi, Simone?
On a la chance de travailler avec une clientèle qui est la plupart, on est sous des Parisiens, on travaille vraiment avec la clientèle locale.
Ouais.
Du coup, on n'était pas forcément très impacté par rapport aux touristes, qui sont assez absents en ce moment. Mais je pense que c'est juste comme petit bombe à retardement.
Oui, mais parce que je me pose la question, vous qui êtes des grands chefs, le travail que l'on fait en cuisine, c'est pas tout à fait comme dans un labo de traiteur où on a le masque, la toque, les gants. On est quand même plus au contact de la nourriture. Et puis un serveur avec une assiette, c'est quelqu'un qui potentiellement peut éventuellement respirer au-dessus d'une... Pour l'instant, les clients ont confiance.
Les clients ne se posent pas la question, c'est-à-dire qu'en tout cas, les clients que j'ai chez moi, les Parisiens, ils ont envie de sortir, ils ont envie de kiffer, ils ont envie de pas penser à ça, et donc ils sortent, ils viennent au restaurant, ils s'amusent, ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Quoi. Ils ne se posent pas la question.
Et on essaie de prendre le maximum de précautions, on porte des gants, on utilise beaucoup de gel.
Du gel, je pense qu'on en a fait on en a pour une année. Quoi.
D'accord. Et vous devriez faire des soupes glacées au gel hydroalcoolique. Je plaisante un petit peu, mais c'est vraiment pas drôle parce que j'ai l'impression quand même que le climat s'alourdit hein, jour après jour, ici en France aussi, et qu'on est en train de suivre, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Laura, on est en train de suivre un peu l'exemple italien avec un peu de retard. On est sur le point de bloquer le pays. Hein. On va rester à la maison, nous aussi.
On va rester
hein.
à la maison, on va cuisiner plus.
Ah, voilà.
Donc ça, c'est
l'avantage. C'est d'ailleurs tout l'objet de cette émission ce matin, de me servir de l'exemple des Italiens. Des Italiens, ceux qui sont chez nous, c'est plus simple. D'abord, vous parlez tous merveilleusement français avec ce bel accent qu'on vous aime. je voulais me servir de votre exemple pour dire, si on est bloqué chez soi, comment est-ce qu'on cuisine la cuisine du placard? Parce que moi, je ne veux pas du tout faire flipper les gens sur les idées de stockage. Hein, on a vu des comportements un petit peu hystériques de stockage de pâtes, de riz, de légumes secs. Bon, très honnêtement, on parle d'être éventuellement confiné 15 jours, 3 semaines. On tient facilement avec des stocks très limités. Et puis, j'ai entendu Michel-Édouard Leclerc la semaine dernière dire que la grande distribution n'envisageait pas du tout de fermer les grands magasins. Comment ça s'organise en Italie ces jours-ci d'ailleurs? Je crois qu'on peut continuer à aller dans les commerces d'alimentation, mais un par un, avec des distances sécuritaires.
Tout est fermé, hein. Tout est fermé, même la poste est fermée. La seule chose qui est ouverte aujourd'hui, c'est les supermarchés, en fait.
Et les pharmacies.
Voilà, ils peuvent rentrer un à la fois, avec une distance, trois à la fois, excusez-moi, avec une distance des 1-2 mètres maximum.
Donc il y a vraiment
sous le sol, en fait, vous avez vraiment l'écart entre une personne et une autre.
Et même
sinon,
dans la queue dehors.
On s'est fait livrer à la maison. Ils disent à la maison.
Ça a beaucoup relancé. Oui, mais encore faut-il que les livreurs soient en bonne santé.
Tant que
l'économie fonctionne comme ça. Alors, puisqu'on est ce matin ensemble pour parler de l'Italie à table, mais de l'Italie à table à la maison, là aussi, on peut dire que l'Italie a une certaine avance. Sur la France, parce que autant on a un peu laissé tomber la cuisine maison chez nous, enfin bon, ça existe encore, bien heureusement, hein, et je m'en fais l'apôtre. autant en Italie, c'est encore extrêmement courant que la maman, elle cuisine encore, quoi. Hein. Simone.
Déjà, la cuisine familiale pour nous est encore très importante. Et deuxième chose, la cuisine, qu'est-ce qu'on appelle la cuisine du placard, pour nous est encore bien présente.
Oui.
Moi, je vois chez moi, je pense que ma famille à moi en Italie pourrait rester 6 mois sans apprisonnement des produits frais parce que
en temps normal, qu'on a dans les placards,
parce que culturellement nous à n'importe quelle saison de l'année on consomme une partie du produit frais, mais il y a une grosse partie du produit frais qui est travaillée parce que voilà, quand on a un potager, on a beaucoup de tomates, quand on a des courgettes, on a beaucoup de courgettes, et du coup on a pris pour pas gaspiller déjà l'aliment,
la conserve,
une partie il est consommé frais, l'autre partie il est mis sous huile avec du vinaigre agro douce, que ce soit même avec de la grappe comme fait mon papa et les cerises.
Il conserve dans la grappe.
Non, surtout les fruits. Il conserve les fruits, il conserve le cerise, il conserve
tous les légumes aussi.
Ouais, bien sûr.
On peut faire des exemples. Denis. Par exemple, les olives macate, les melanzane sott'olio.
Qu'est-ce que c'est ça,
les olives macate? C'est des olives qui ont été écrasées avec un mortier et ensuite mises sous huile avec des petits oignons.
Ah, c'est comme une espèce de grosse pâte d'olive, quoi.
C'est une grosse pâte d'olive, mais c'est des gros morceaux quand même d'olive.
D'accord.
En fait, on enlève les noyaux, on garde, parce que comme ça, il y a plus d'olives qui rentrent à l'intérieur de la boîte, du contenu. Et aussi, la conserva di pomodori, on fait les courgettes grillées sous huile, on fait pas mal de choses au vinaigre aussi également. Donc les pickles, tout ce qui est oignons pickles, tout ce qui est cornichons, on en fait déjà chez nous. Ouais. Donc et tout ça, on le consomme tout au long de l'année, comme Simone disait.
Laura, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu cette hystérie des Italiens au moment du blocus, hein, de ce confinement chez eux. Ils n'ont pas eu le même sentiment de manquer bientôt, parce que tout le monde a un peu des réserves pour l'hiver.
Oui, surtout des pâtes, du riz, c'est normal d'avoir ça, des anchois, du thon.
Oui, tout le monde a ça chez soi. Quoi. C'est pas tout d'un coup, on est en rupture de stock.
Anchois à sardines, c'est un grand classique chez nous.
Hein. Oui, c'est ça. Parce que les poissons, c'est beaucoup en salaison ou en huile, hein, chez
tout
vous.
Tout à fait. Que ce soit aussi beaucoup les bacalas, par exemple.
Beaucoup plus au sud, bacala, par exemple. Ouais. Là, par exemple, entre moi et Denis, notre culture, on a les mêmes produits, mais il y a différentes.
Vous êtes un homme du nord, Simone, et vous, Denis, vous êtes un homme du sud.
Forza
la Calabre et la Lombardie. Donc,
ouais.
Hein.
Alors, on est complètement opposés, là. Mais par exemple, nous, chez nous, on fait beaucoup la giardiniera. La giardiniera, c'est un mélange de chou-fleur, c'est un mélange d'oignons, carottes, qui sont croquants, et ils sont mis avec une mélange de vinaigre et d'eau, et on les peut conserver vraiment un an, deux ans.
Même plus. Hein.
Même plus, mais facilement, ouais.
Ah oui.
Et par exemple, on fait certaines choses, et nous, les olives écrasées, par exemple, on ne fait pas, parce qu'à chez nous, il n'y a pas d'olives.
Ah bah non,
alors,
non, c'est pas dans le
chacun
nord.
Des soirs, vraiment de...
Sur le lac des Gardes, il y en a un peu.
Sur le lac des Gardes, mais bon, moi, j'habite un peu plus sous les hauteurs, du coup, un peu moins chez moi.
Et vous, Laura, en Vénétie, qu'est-ce qu'on fait dans du coin de Trévise comme conserve pour l'hiver?
Bon, du radicchio, on peut faire du radicchio en conserve, mais on a beaucoup de... Ben, dont je vais parler après, les
radicchio,
haricots.
C'est ce qu'on appelle chez nous la trévise.
Hein. C'est
salade amère. Hein,
ouais. Les tardivos, ce n'est pas vraiment amer, parce que c'est vraiment le travail de l'homme qui les rend fabuleux comme salade. Mm-hmm. Et sinon, comme conserve, ben, on utilise beaucoup le... ce qu'on achète, hein, les stockfish.
Oui, c'est ça, la morue, quoi.
La morue, voilà.
La morue séchée.
Et après, je parlerai des haricots.
Ah, bah oui.
Les meilleurs borlotti, c'est dans les vallées de Belluno, les Lamont.
Ah, attention, là, il y a le régionalisme bontain qui va s'exprimer. Entre un Lombard, une Vénétienne, un Calabrais, vous vous rendez compte que ça va causer cuisine italienne. On se retrouve dans une seconde après la publicité. Et on va surtout parler aussi de tomates en boîte, parce que les tomates, on aime ça.
Tout de suite, on retrouve Vincent Ferniaud, une émission enregistrée vendredi.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Retour Place du Marché, c'est un marché transalpin, un marché de Lombardie, un marché de Calabre, un marché de Vénétie et un marché d'Émilie-Romagne, puisque avec Simone Zanoni, Denis Imbroisi, Laura de Savane, je reçois aussi Laure Souche qui est responsable produit chez Mouti. Alors ce Mouti, ici, ça échappe encore à certains des Français, hein, parce que c'est pas une marque majeure de notre alimentation, mais en Italie, tout le monde connaît Mouti, puisque c'est synonyme de tomate en boîte,
tout
on est d'accord.
Tout à fait.
Hein, et plusieurs d'ailleurs. C'est pas que les tomates pelées, hein, parce que dans vos boîtes, vous y mettez différentes formes de tomates.
Alors oui, on met de la tomate sous toutes ses formes. Hein. On sait transformer cette tomate. Alors la tomate, elle vient principalement de la région Émilie-Romagne. Hein.
Oui.
On a deux bassins de récolte.
Du coin de Parme.
Du coin de Parme, à côté de Parme.
Ouais, c'est à côté de Parme.
Donc deux gros bassins de récolte. Un gros bassin dans le nord où on a transformé la majorité de
nos tomates.
Il me semble
qu'il y a un autre produit qu'on peut conserver pendant l'hiver dans le coin de Parme. Comment s'appelle ce truc qu'on fait à Parme, là, le jambon.
Je
pensais que tu parlais du fromage.
Parmesan.
Ouais, moi aussi, pareil. Non, on parlait bien du jambon de Parme. Et alors, expliquez-moi par exemple, alors, pourquoi est-ce que c'est meilleur, enfin, selon les gens qui font la sauce tomate, hein, c'est-à-dire qui la cuisinent, ils préfèrent souvent prendre des tomates en boîte plutôt que des tomates fraîches. Pourquoi? C'est une question de maturité?
Alors, il y a une question de maturité, il y a surtout une question de saisonnalité aussi, puisque nous, on va transformer de la tomate qui est récoltée uniquement pendant l'été. Donc c'est de la tomate fraîche qui est mise en conserve. Et au-delà de l'été, effectivement, la tomate d'hiver sur vos rayons de magasin, elle n'est pas très très bonne. Donc il vaut mieux prendre de la tomate en conserve qui a été transformée durant l'été.
Épelée en plus, comme ça on n'a pas à le faire.
Surtout qu'on a complètement perdu la notion des saisonnalités de la tomate.
Bah bien sûr.
Parce que déjà, les gens ils pensent que la tomate, ça soit comme du rosé. On voit du soleil, on sort la terrasse et on boit du rosé. Mais la tomate, elle n'est pas fraîche au mois de mai, juin. La tomate a commencé à arriver juin, début juillet.
Il y a une petite astuce quand même. Hein.
Oui, Denis.
Pour les gens qui nous écoutent, par exemple, quand on va au supermarché, pour savoir, parfois on ne sait pas qu'est-ce que c'est la saisonnalité, on ne connaît pas parce que peut-être ils ne s'en font pas. Mais si vous allez sur les étalages, quand vous lisez provenance Kenya ou autre, c'est pas
la bonne saison.
Voilà. Ouais. Si vous prenez des produits français, c'est des saisons.
D'accord. Donc, voilà. S'il y a marqué France,
c'est la
a priori,
à 90%, c'est des saisons. Voilà.
Oui, sauf à avoir des serres chauffées.
Ça,
ou
c'est
des...
plutôt en Espagne ou plutôt dans d'autres. Voilà. En France, c'est pas beaucoup de ça. Même peut-être sûrement il y en aura quelques-unes, mais en tout cas, la majorité vient des pays étrangers. Donc, achetez français déjà de base et vous achetez des saisons.
Et alors, je veux pas dire, mais pour avoir un peu étudié le problème de la tomate dans le monde, hein, qui est probablement le fruit le plus vendu, la tomate, c'est un peu, enfin, la mauvaise tomate, c'est un peu comme le coronavirus. Elle vient de Chine, en bonne partie. Hein. Beaucoup des préparations de sauce tomate de marques moins glorieuses que la vôtre viennent de Chine. Hein. La plupart de la production, ce qui semble incroyable.
Ah oui, c'est les premiers producteurs de tomates.
Premier producteur de tomates au monde.
C'est énorme, ça. Devant l'Italie.
T'imagines un peu.
Oui, non, mais c'est ça qui est fou. Hein. Et donc, on peut se dire, au fond, déjà, acheter de la tomate italienne en boîte, que ce soit votre marque ou d'autres, il y en a des très bonnes, c'est déjà une assurance que c'est de la tomate de saison.
De saison, de qualité. Et effectivement, nous, la saison, elle va commencer fin juillet, on va les récolter. Et en moins de 24 heures, elles sont transformées et mises en boîte pour conserver toute la fraîcheur de la tomate. Et comme ça, on s'assure d'avoir des tomates qui ont vraiment le goût de la vraie tomate.
Et qui sont sucrées naturellement.
Complètement.
Alors justement, je vais vous demander à tous les trois, Simone Zanoni, Denis Mboisi et Laure Zavan, une petite recette à partir de tomates en boîte, puisque la cuisine du placard, ça commence en Italie par la tomate en boîte. Je ne sais pas comment vous feriez d'ailleurs s'il n'y avait pas les boîtes de tomates à disposition le reste de l'année. Hein. Alors qu'est-ce que vous feriez, vous, à la tomate à la maison coincée pendant 15 jours ?
Je crois que tu as une bonne recette, Simone.
Bah, allez, on va donner une recette un peu différente. Une chose qu'on a développée avec même nos restaurants, c'est un tatin de tomates.
Une tatin de tomates.
Alors, on prend des pelati en conserve.
Pelati, c'est les tomates pelées.
C'est les tomates pelées.
Tout à fait.
On enlève le jus et qui ont fait cuire derrière avec un peu d'ail, un peu d'oignon pour faire une sauce tomate.
Pour faire réduire un peu ?
Un petit peu, oui. Ouais. Mais après, on garde la tomate pelati elle-même. On la laisse dessécher une demi-journée, que ce soit dans le four, que ce soit jusqu'à température ambiante.
Four à quelle température ?
Les fours 50 degrés ? 50, 60 degrés, heures.
D'accord.
Et une fois que la tomate est un peu plus sèche, on la travaille comme une pomme.
D'accord.
Et on fait une tatin.
On la caramélise.
On la caramélise et on fait une tatin faite avec des tomates. Bon. Et les goûts, c'est...
Et c'est super bon.
C'est extraordinaire.
Et dessous, si vous faites une tatin, vous mettez quoi ? Un feuilletage ?
On met à l'envers, bien sûr. On fait un caramel déjà fait.
Ouais.
Un petit caramel que nous, on déglace avec un petit peu de vinaigre balsamico.
Ouais.
La tomate, pas fouettée, et on cuit au four à 180 degrés, une quinzaine de minutes.
Pas feuilleté au beurre ?
Oui,
en Lombardie, on a le droit. Hein. Dans le nord d'Italie, on utilise le beurre.
Petite glace cacio e pepe, t'as oublié.
Ah ouais, gelato, on peut faire aussi, même parmigiano, au grana padano.
Ancora meglio.
On peut faire un glace au grana padano.
Alors, Denis Mboisi, qui est, bien que calabrais, ambassadeur du grana padano, qui est un fromage d'appellation. Alors, pour ceux qui nous écoutent, hein, j'explique, c'est simple. En fait, le grana padano, c'est le cousin du parmigiano reggiano, mais vers la Lombardie, plus haut dans la vallée du Pô.
C'est un fromage à pâte dure, exactement, sauf que les laits sont récoltés plutôt en Lombardie qu'en Émilie-Romagne. Le parmigiano reggiano, c'est du lait de l'Émilie-Romagne, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est une appellation d'origine contrôlée.
Après, il y a d'autres différences. Hein. C'est aussi la taille. C'est-à-dire qu'un parmigiano reggiano est beaucoup plus grand qu'un grana padano. Et donc, effectivement, l'affinage, il met plus de temps.
C'est pour pour s'affiner à cœur.
À cœur, tout à fait. Mm-hmm. C'est pour ça qu'un grana padano, il est déjà prêt à 9 mois, chose qu'un parmigiano, il faut peut-être un 16 24, mois minimum.
Ouais,
quoi.
16,
d'accord.
24,
d'accord.
Quoi.
Ouais, d'accord.
Et après, en tout cas, on a aussi du grana padano extra vieux, un riserva, qui dépasse les 20 mois, comme un parmigiano
qui peut être 36.
Exactement, ouais, très affiné.
Mais alors, Denis, ce produit lombard, d'ailleurs, on rend hommage à la Lombardie, hein, qui a été la première touchée par ce virus, la première où on a connu ce blocus. Ce grana padano, pour des palais qui ne sont pas exercés, souvent on le trouve sous le nom de parmesan en France.
Alors aujourd'hui, parmesan a été acheté par Parmigiano Reggiano. Donc maintenant, tout ce qui s'appelle parmesan en France, c'est du Parmigiano Reggiano. Avant, il y avait un peu...
Une confusion, un flou artistique.
Parce que même des fromages à pâte dure qui venaient des pays de l'Est pouvaient être appelés parmesan râpé. Donc là, c'était un peu de la triche parce qu'on pouvait trouver des tout dedans. Aujourd'hui, parmesan, c'était déposé par Parmigiano Reggiano. Donc aujourd'hui, quand on voit parmesan, c'est du Parmigiano Reggiano. Et donc, grana padano, ça doit s'appeler différemment grana padano tout court.
D'accord. Alors, Laura, quand vous entendez ça, Simone Zanoni nous disait tout à l'heure, nous, on a la culture du placard, c'est-à-dire de la culture de la conserve, d'aliments qui se conservent pendant une saison, pendant l'hiver en général. Donc, évidemment, tous ces produits en boîte les conservent. Les légumes secs dont on va parler avec vous, mais aussi ces fromages qui tiennent très bien dans le temps, hein, puisqu'ils sont faits pour vieillir et pour se conserver, comme les salaisons. On parlait du jambon de Parme, par exemple, ou du San Daniel, pour être plus près de chez vous. Donc tout ça fait qu'il y a cette culture de la cuisine à la maison, sans être obligé d'aller faire le marché tous les jours, en quelque sorte.
Oui, après, bon, beaucoup de nous ont des potagers, donc... On consomme énormément de légumes parce que l'Italie...
C'est vrai que c'est le produit du légume.
Une biodiversité incroyable.
Mais quand
légumes.
On est coincé chez soi...
La plus grande du monde,
oui.
Même. Hein.
Voilà, je ne voulais pas dire la plus grande, mais apparemment,
on a la plus grande diversité du monde. Oui. Je vais t'envoyer une vidéo tout à l'heure, tu vas regarder ça.
En matière de légumes
En matière de légumes,
oui,
on a
oui,
la plus
oui,
grande
on
variété.
On est les premiers.
Alors là, ça, j'apprends quelque chose. Ça me gêne un petit peu parce que je pensais que la France était bien placée.
Mais non, chaque région...
La France a la chance d'être à côté de l'Italie, ça c'est sûr.
lorsqu'on parle des produits secs, parce que quand on pense Italie, on pense
risotto dans le nord, oui. pâte dans le sud, hein, pour, depuis la
oui,
France.
Oui.
Et pourtant, c'est oublier tous les légumes secs, et notamment les haricots et les lentilles.
Oui. Bah, oui, mais ils font partie. Les haricots, on les met dans les pâtes, on les consomme avec du riz, avec tous les céréales. Parce qu'ensemble, ils font une bonne protéine. Comme...
C'est idéalement le produit que l'on peut avoir quand on est bloqué chez soi et qu'on ne peut pas aller faire le marché.
Alors, la zuppa di fagioli della nonna, c'est quelque chose à tomber par terre.
Ah, Laura, qu'est-ce que c'est la soupe
des haricots de la grand-mère
eh.
Bah, oui, c'est la soupe qu'on mange toujours en Italie et qui est bon.
Après, dites-nous voilà, comment c'est fait. Racontez-moi.
Bah, alors, au nord, on utilise donc les borlotti, qui c'est vraiment la variété pour la soupe. Je trouve que c'est l'haricot qui rend le mieux parce qu'il est le plus farineux. Et,
d'accord,
et
ça, c'est un peu comme nos lingots ou c'est comme des cocos?
Moi, je dirais au niveau goût, les cocos de Pimpol sont vraiment très
d'accord,
très bons.
D'accord.
Voilà,
okay.
Ça peut rassembler. Sauf que vous ne les faites pas vraiment.
Non,
un sec, c'est très difficile
frais,
de les trouver. Voilà, vous les mangez souvent en frais. Voilà.
Ouais.
Et nous, donc, un sec, ben, c'est voilà, on a toujours ça dans les placards. Il faut juste penser de les faire tremper la veille. Et le lendemain, on les cuit 2 heures minimum avec des arômes, un peu d'ail, un bouquet garni.
Ah, t'es sûr, parce que la grand-mère, elle prend tous cette recette. Hein.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, nous, ça, c'est votre grand-mère. Ah, ben, moi, je vous dis
la mienne. Il ne faut pas rigoler avec la zuppa di.
Mais moi, je ne connais pas la vôtre. Moi, je connais la mienne.
Donnez la vôtre, puis après, on va demander à Simone Zanelli ce que met sa grand-mère en plus.
Ça peut être ce qu'on a. Hein. C'est ce qu'on a. Donc, moi, j'ai toujours de l'ail, de l'oignon. Voilà, ça se conserve longtemps. Donc, on a toujours.
Un peu de cochon, un talon de jambon.
Ah, voilà. Alors,
je ne sais pas.
La graisse. La graisse. Toujours.
Oui, voilà. Moi, je suis plutôt
végétal.
Végétal, donc j'en mets pas. Mais quand on a à la maison un charcutier, on vient de ça, c'est-à-dire c'est normal de mettre un talon de jambon, ça va être encore plus
bien
savoureux.
Sûr, bien sûr.
C'est super. Et mais en tout cas, on peut les faire que végétal.
Et ça se fait un peu comme une garbure, alors. Hein, c'est un peu une soupe aux haricots et aux légumes.
Alors, par exemple, en Vénétie, c'est la pasta fagioli.
Ouais,
pasta fagioli,
ouais.
Ça veut dire pâte et haricots, mais il y a plus d'haricots que pâte. Hein.
Ah oui.
Donc, on mixe, encore mieux à la moulinette, les haricots, on fait comme une crème d'haricots.
Ah, d'accord.
Et après, on laisse aussi des haricots entiers. Et on met des pâtes.
Donc la crème de haricots va en fait servir un peu de sauce,
c'est
de liant.
C'est une soupe épaisse.
D'accord. C'est comme un velouté en fait, voilà.
Voilà. Et extraordinairement bon parce qu'après on met un filet d'huile d'olive et du poivre. Et les pâtes, c'est souvent des tagliatelles, mais que moi je cuis un peu à part parce que la soupe, si après on en reste, vous savez, on ne peut pas remanger la soupe avec les pâtes qui cuisent trop et sont trop cuites, ce n'est pas bon.
Comme
donc je les fais à part. Après, on a comme au Frioul, par exemple, même chez nous, on peut mettre de l'orge à la place des pâtes.
De l'orge perlée.
De l'orge perlée, voilà, je donne ma recette dans Balade Gourmande en Italie. Au Piémont et en Lombardie, où il y a plus de riz, ça peut être haricots et riz.
Oui.
En Toscane, on a plutôt de l'épeautre. Donc voilà, chaque région met son céréale.
Il y a un soupçon d'amour dedans, un calabre.
Qu'est-ce qu'il y a
Un peu d'amour.
Un soupçon d'amour.
Un tout petit peu, ouais, ça ne m'étonne pas du calabre.
Ça, amour indispensable.
Bah, écoutez, vous savez quoi? Parce qu'en face de vous, la Rozzava, d'abord, vous me donnez faim avec ces soupes du placard, là, italiennes. Mais je vois Simone Zanoni qui fulmine. Je pense que c'est la mémoire de la nonna. C'est la mémoire de la grand-mère Zanoni et de cette famille de charcutiers qui dit « Ouh là là, il n'y a pas assez de place au cochon. » On part pour une petite page de pub et on revient tout de suite.
Tout de suite, on retrouve Vincent Ferniaud pour Place du Marché, une émission enregistrée vendredi.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes amis, retour Place du Marché. Ce marché est tellement italien, mais c'est un marché que l'on fait à l'intérieur de chez soi, dans son placard, dans son cellier, dans son grenier parfois, puisque nos amis italiens sont confinés chez eux et que malheureusement, j'ai peur que nous suivions le même chemin d'ici quelques temps. Donc, on s'interroge sur... Qu'est-ce qui nous reste à faire à la maison quand on est bloqué chez soi avec les enfants? Bah, peut-être leur transmettre un petit peu de cette cuisine familiale qu'on a la chance pour certains d'avoir, ou aller fouiller dans les livres de cuisine des grands chefs et puis faire la cuisine avec ce qu'on a sous la main. Cette cuisine du placard que pratiquent si bien les Italiens qui sont là aujourd'hui. Simone Zanoni, le chef du restaurant Le Georges à Paris. Denis Imbrosi, chef de Ida et Epoca à Paris également. La Rozzavan, auteur de livres de cuisine quand même très italien et vénitien.
bien, hein. Oui, bah, bah, oui, oui, bah, oui, oui. Et Laure Souche, responsable produit chez Mouti, une grande marque de tomates en boîte. Alors, on se pose la question et on y répond d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ont peur d'être bloqués chez eux. Malheureusement, avec les enfants à la maison à partir de demain, évidemment qu'il va falloir les occuper. Et la cuisine, c'est quand même une belle occupation, d'autant qu'il faut quand même se nourrir tous les jours. On était en train, juste avant la pub, d'écouter la recette de la soupe des fagioli, c'est-à-dire des faillots. Hein, fagioli, c'est faillot. Hein, traduit, c'est les haricots secs, les haricots blancs.
C'est pour ça que Simon les connaît bien, alors.
Dès la Rana, ben... Ah, parce qu'il faillote, lui.
Ah, il faillote. Il faillote.
Alors, Simone Zanoni, notre lombard, qui est d'une famille de charcutiers, en plus, trouvait que ça manquait un tout petit peu de viande de cochon dans la soupe de la Razzavan, non?
Écoute, à chez nous, il y a toujours la place pour du cochon.
Bah oui.
Et alors, pour la soupe des fagioli, c'est le démarrage, c'est la chose la plus importante, parce que nous, en fait, on est okay, à côté du lac, mais on est plutôt côté montagne. Alors du coup, l'huile d'olive, on l'adore, mais on aime bien le beurre et on aime bien les gras. La zuppa, elle démarre toujours avec un peu de gras de la pancetta. Nous, on fait beaucoup de pancetta à la maison.
Bah oui. La pancetta, c'est la poitrine séchée. Hein.
Oui, tout à fait. Et après, entre la pancetta et la couenne, il y a toujours ces couches de gras qui est gourmand. Et en même temps, on n'a pas forcément envie de manger en tant que charcuterie. Du coup, la grand-mère a toujours enlevé une partie des gras avec la couenne qui était coupée, qui était un rôti. Piano piano avec les oignons au feu doux pour vraiment faire sortir ces goûts de parfum des cochons rôtis qui étaient délicieux. Et après, on démarrait avec, il y avait toujours des bouillons des poules à la maison, c'est normal. Les fagioli qui étaient bien sûr à tremper la veille dans de l'eau, cuit tout doucement avec les fagioli. Nous, on ne broyait pas trop les fagioli, mais la grand-mère mettait un peu de pommes de terre.
Des pommes de terre.
Donc, des pommes de terre à la fin, elles cuisaient plus vite que les fagioli.
Et ça liait le tout.
Et ça donnait la côté crémeuse.
D'accord, mais alors, attendez, si je comprends bien, c'est un peu un... Bon, je sais pas, moi je veux faire des analogies avec la cuisine française.
Il n'y a dire. Pas d'analogie,
non,
vous ne faites pas
ça. On dirait une sorte de cassoulet lombard.
Allez, un cassoulet lombard.
Voilà.
Et à la fin...
Ou un haricot de cochon.
Non, et à la fin, c'est très important, les petites pâtes courtes, nous mettre des pâtes courtes, on ne met pas des tagliatelles.
Je ne suis pas d'accord, moi.
Nous mettez des pâtes courtes.
Mais tu vois, c'est ça la cuisine régionale. C'est ça la cuisine régionale.
Ma mère, pour les spaghettis, elle casse les spaghettis dans la soupe, tu vois, directement.
Ah oui, mais vous êtes de Calabre, alors
évidemment. Que pas des spaghettis.
Les spaghettis, c'est le sud, hein.
Bah évidemment.
C'est autour de Naples et jusque dans le sud, hein.
Tout à fait.
Alors, mais dans une famille de charcutiers, ça veut dire qu'on avait toujours une copa, une ventrèche, un jambon qui pendait dans le cellier.
Il y a toujours.
Chez vous, c'est comme ça.
Il y a le côté traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a les salamis classiques, et après, bien sûr, il y a les expériments de mon papa. Parce que mon papa, c'est quelqu'un qui...
C'est un
aventurier. Lui, il fait des salamis de canard, cochon, il fait des salamis avec de la viande d'âne.
Ah oui,
du lapin mélangé avec... Il fait vraiment des trucs qui sont
incroyables.
Il sont a fait assez des expériences sur vous, alors.
Il fait tromper la viande à du vin et de l'ail, il fait tromper la viande à de la grappa. Chaque fois que je descends, il dit, tiens, ramène ça, tiens, goûte ça. Et ma fille, elle est accro au salami. Elle a 4 ans, elle mange le salami au petit déjeuner.
Oui, parce que le salami, malheureusement, ici, on en a une image un peu dévoyée en France. Parce que salami, ça veut dire ces horribles salamis industriels, ces horribles gros saucissons. Alors que le salami, c'est le nom du saucisson.
Tout à fait.
On dirait saucisson pour salami ici.
Tout à fait.
Donc il y en a de plein de sortes.
Différentes.
Il y en a de plein de formes, avec du hachage gros, du hachage fin.
Et surtout que si vous avez quelque chose de fait maison, par exemple, nous, je sais que mon papa, il réduit vraiment minimum la quantité de nitre qu'il met à l'intérieur.
Le sel nitrité.
Le sel nitrité, en manière qu'on a quelque chose qui est quand même qui n'est pas mauvais pour la santé, ou pas trop mauvais pour la santé.
Et puis alors, il y a un truc, moi, que j'adore, qui n'est pas trop loin. Je vois Denis Imbrosi, ça va être votre tour, Denis. Hein,
non,
vous inquiétez pas, parce qu'on sent que le Sud est en train de pousser. La Lombardie. Mais il y a un truc que j'adore, moi, qui est devenu, quand il est artisanal, qui est merveilleux, c'est la mortadelle. Alors, c'est pas très loin, c'est Bologne. Hein, c'est,
la mortadelle, j'adore.
Mais on est toujours dans la vallée du Pô, je vois Laure qui dit oui. Hein, c'est plus notre région, hein, du côté de l'Émilie-Romagne.
Mais parce qu'aussi, dans la mortadelle, on a mauvaise impression, parce que la mortadelle qu'on trouve en France, la plupart, elle est servie dans des barquettes. C'est pas mortadelle qualitatif, mais quand vous mangez la vraie mortadelle de qualité, c'est extraordinaire.
Bon, alors Denis, je vous regardais écouter Simone et dire ah, ça va pas, non. Il y a quand même un antagonisme, un vrai antagonisme entre le Nord et le Sud, notamment à table.
Hein, mais qui est positif.
Qui est positif, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Ça mène à la diversité, ça
c'est une
émulation.
Et effectivement, on fait des choses qui sont un peu similaires, mais avec des appellations, des noms différents. Mm-hmm. Mais sachez qu'il y a toujours les mêmes amours de la maman qui
déjà, il n'y a pas de beurre. Hein. Hein.
Y a pas de beurre.
En dessous de Rome, il n'y a pas de beurre, hein, grosso modo.
Qu'est de l'huile d'olive.
L'huile d'olive. Et le gras du cochon, par exemple, aussi.
Aussi, les strutto, on l'utilise énormément, c'est ça. Aussi
c'est quoi, strutto?
Le strutto, c'est les gras du
lard.
Cochon.
Les seins doux.
C'est le seins doux, d'accord.
Merci beaucoup, Laura.
Le lard liquide, enfin,
Et là, on l'utilise, par exemple, ma mère, elle fait des tarallini à casa avec les strutto. Il fait aussi des focaccia avec, du pain.
Ah, on fait du pain au seins doux, du pain au cochon.
Les tarallis sont
extraordinaires. Les tarallis, ce sont vraiment
les petits anneaux secs.
Les petits anneaux secs, oui. Tu peux consommer ça pendant. Ça tient pendant longtemps, quoi.
Moi, c'est un produit de Placard, ça, en fait.
Oui, c'est un produit de Placard, voilà, exactement.
Alors, oui, alors là, moi, je vais pas. Je suis entouré d'Italiens, donc je vais pas me mettre à dos tous ces Italiens, mais il y a quelque chose qui pour moi est prime en France, c'est la qualité du pain. Du pain, évidemment, notre baguette et notre pain de campagne, etc. En revanche, pour tout ce qui est pain aromatisé, notamment les focacci et tous les biscottini, en fait, tout ce qui est sec, là, il y a une prédominance en Italie.
Ouais, on est très fort.
On sait très bien faire ça. Hein. À quoi ça tient justement? Parce que c'est des pains qu'on conserve, c'était des pains à garder longtemps. Laura, qu'est-ce que vous avez comme idée là-dessus? Pas grand-chose, apparemment.
Ce sont des choses qu'on peut garder longtemps, ça c'est
oui,
sûr.
Oui, les tarales, oui, les biscottes, tu sais qui, oui.
Et puis les graissins, hein,
C'est en fait quelque chose qu'on peut consommer vraiment à n'importe quel moment de la journée, on n'a pas besoin d'avoir une baguette fraîche.
C'est ça.
Quand vous avez des invités, on voit comment je fais la maison, vous avez des invités, la première chose que papa a fait, il sort la planche, le salami, et après les grissini ou les biscuits qu'il a fait la veille.
C'est toujours prêt, quoi.
C'est toujours prêt.
C'est comme du pain en conserve alors.
Presque. Hein,
c'est un peu le pain du placard.
Non, mais tu sais que parfois, quand il reste les miettes des tarali, parfois, dans les sachets, ma mère, elle fait du pané avec. C'est-à-dire la milanaise, elle peut la paner avec ça.
Ah, de la chapelure.
De la chapelure, voilà.
Ah oui, oui, moi aussi je le fais. Hein. Ouais. Volontiers, hein, avec des biscottes.
Oui,
ou
mais parfois, on appelle ça même les parmesans des pauvres, hein, en sud d'Italie. Nous, on fait même des pâtes. On fait des spaghettis, anchois, huile d'olive et chapelure dedans, des tarali ou des pains secs.
Ah, bah, ça aussi, c'est des
pâtes. À la mollica.
Oui, comme si on mettait des petits croutons dans les pâtes.
C'est ça, voilà. On appelle ça les parmesans des pauvres, en fait.
Tiens, puisque vous avez la parole, Denis Imbrosi, notre chef calabrais, donnez-nous donc la recette de la pâte maison, de la pâte fraîche.
Ah bah, écoute, tu sais, à ce moment, ma mère, elle est à la maison, comme tu dis. Oui. Elle a déménagé chez ma sœur. Elle est hyper heureuse.
Elle habite où?
Alors là, elle est déménagée chez ma sœur. Ma sœur, elle est à Lombardie, pas loin de chez Simone.
D'accord.
Ma mère était dans Calabre, mais vu ce qui se passe aujourd'hui en Italie, elle a préféré rejoindre la famille.
Donc, oui, pour se regrouper. Oui.
Regrouper. Mmh. Donc il y a aussi sa nièce. Donc tu vois, elle s'amuse à la maison. Elle est contente d'être à la maison parce qu'elle a tout le monde à la maison. Et elle fait des pâtes fraîches. Donc encore aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone. Elle faisait des pâtes fraîches.
Écoutez bien, parce que Denis Imbrosi. Et ça, ça se fait
elle
jamais.
Est facile,
hein.
Elle est facile.
Elle donne la recette de sa maman.
Non, elle est facile.
Prenez des stylos.
Écoute, c'est hyper facile. C'est 100 grammes des pâtes. 100 grammes de farine, excusez-moi, double
farine
zéro.
Farine blanche,
double zéro à T45 en France, par exemple.
D'accord, la T45.
Avec un œuf. Donc ça, c'est une portion pour une personne, en fait.
Un œuf, c'est 55 grammes, hein, 60
voilà,
grammes.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Alors, il faut savoir aussi que, par exemple, jour d'aujourd'hui, quand il n'y a plus d'œufs à la maison, et au lieu de sortir, on peut faire aussi des pâtes sans les œufs, à l'eau. C'est comme les cavatelli, par exemple.
On met de l'huile dedans ou pas?
Aussi, tu peux mettre de l'huile. Normalement, c'est de la semoule qu'on utilise aussi, tu vois. Mm-hmm. Et on tend pour temps d'eau. Et une cuillère d'huile d'olive, et on peut faire aussi des pâtes sans les œufs, en fait.
Ah oui, alors on peut faire des pâtes, oui, d'ailleurs, il y a des pâtes aux œufs, hein, et ça, c'est plutôt le nord, et puis les pâtes de grains durs, des grano duros, c'est plutôt le sud, justement.
Tout à fait.
On n'utilise pas les œufs. Mais alors, justement, Laura, dans cette cuisine du placard, la pâte en fait partie. On a bien vu que les Français, bon, il y a eu un comportement un petit peu hystérique, se sont rués sur les coquillettes et les spaghettis, grosso modo, comme s'il fallait faire des stocks.
Comme quoi, tu vois, l'Italie, elle est toujours là. Hein.
Alors qu'en Italie, on va plutôt acheter de la farine. De la semoule et faire les pâtes soi-même au moment
où
on a besoin.
Quand on a le temps, c'est mieux. C'est, mieux, hein.
C'est justement ce qu'on a en ce moment en Italie.
Ouais.
Vous avez des nouvelles de sa cuisine chez vous en Italie?
Ah ben bah oui, là... Oui, là, c'est à fond la cuisine. Hein.
Ouais, ouais. Vous, non mais je suppose les que soupes. Vous appelez tous les jours, donc vous avez un peu des nouvelles des menus.
Les parce menus, que... bah oui, c'est beaucoup de conserves et parce qu'on sort pas, mais et après c'est.
Alors tiens, il y a un truc.
Spécialité locale.
Un truc auquel je pensais, que j'adore, on en parlait en micro tout à l'heure, Simone, c'est vitello tonnato. C'est-à-dire cette sauce au thon, ça c'est vraiment une sauce du placard.
C'est un sauce du placard.
Alors, fait, ouais. Normalement ça se met sur du thon, enfin des tranches de veau, je veux dire, très fines, oui. De la viande froide. Mais on peut le servir...
Mais je mange avec tout. Hein. Moi je fais des salades, je fais des croutons avec mes enfants, ils raffolent de ça.
Et comment c'est fait? Allez, donnez-nous, on a une minute avant de repartir.
Alors nous, on part sur base de mayonnaise fait maison. Alors, si c'est possible, sinon c'est sans mayonnaise de placard, bien sûr, parce que si on n'a pas des eaux frais. Après, moi, j'aime cette un peu en confort qui est un peu différente, parce que j'aime ajouter dans le mixeur, je prends mayonnaise, j'ajoute des câpres, j'ajoute des thons en boîte, l'huile d'olive de thon.
Celle qui était dans la boîte
dans
du
la
thon.
Boîte, surtout acheter du thon avec de l'huile d'olive, pas de l'huile extra vierge. Ouais. Et j'ajoute aussi du parmesan râpé.
Ah d'accord.
J'adore le
comme
mélange.
Comme dans un pesto.
Ça donne plus de goût. Et surtout, le vinaigre. Les vinaigres, Amélie, il n'est pas d'accord.
Denis, c'est d'accord. Hein. Et c'est il veut mettre du granat. Non, même pas. On mélange jamais normalement un produit gras animal avec du poisson.
Ouais, mais bon, ouais, ça.
Ouais, après, c'est. Ah bon, parce que sur un vitello tonnato, on mélange pas du poisson avec du veau.
Du veau, ça tu peux. Terre et mer, tu peux, mais la graisse, c'est-à-dire fromage, produits laitiers,
ou de la crème non plus.
Voilà, par exemple, tu mets pas du gran la padano rapé ou linguine alle vongole, ça tu fais pas.
Oui, oui.
Ah bon.
Non. Ça s'interdit.
Ah non, mais alors là, tout d'un coup, j'ai un consensus contre moi.
Mais ça mène, c'est effectivement, dans une sauce, ça mène beaucoup plus des goûts, ça mène les côtés un peu salés. En sachant que moi, par contre, j'utilise des œufs durs quand j'ai fait ma mayonnaise au thon. À partir des œufs durs, ça dure aussi plus longtemps dans le frigo. Et je démarre ma mayonnaise comme ça.
Ça tient mieux, quoi.
Ça tient mieux, ouais.
Mais attendez, ce que vous venez de me dire est une information de prime importance. Quelles que soient les circonstances, en ce moment, l'Italie est complètement confinée. On cuisine la cuisine du placard. Les familles sont regroupées, on l'a bien compris, puisque tout le monde a envie de passer ce sale moment d'isolement ensemble, au moins, pour être un petit peu moins isolé, proche des siens. Je viens d'apprendre que sur des pâtes, quels que soient les fruits de mer utilisés, crustacés, coquillages, poissons, jamais de fromage râpé, c'est ça ?
Ah non, c'est blasphème.
Blasphème.
Ah non, mais c'est...
C'est criminel même. On va vous arrêter, on va vous amener en prison.
Eh bien écoutez, j'espère que je serai encore là après la pub pour parler encore de cette cuisine italienne de la maison.
Place du marché avec Vincent Ferniaud, une émission enregistrée vendredi.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
La Place du Marché ressemble un petit peu à l'Italie. C'est normal, nous sommes ici en bonne compagnie transalpine, en bonne compagnie avec Simone Zanoni, le chef du restaurant Le Georges, avec Denis Imbrosi, le chef du restaurant Ida Epoca, avec Laura Zavan, auteur de livres de cuisine qui est vénitienne. Et donc voilà, elle clame haut et fort, parce qu'en face d'un Lombard, Simone, et d'un Calabrais, il faut tenir son rang.
Ah
hein.
Bah oui, c'est pas évident. Facile. Hein.
Et à côté de vous, c'est plutôt une parmesane, hein, puisque Laure Souche, elle travaille chez Mouti.
Représentante.
Mais vous avez pas mal traîné là-bas aussi.
Tout à fait,
hein.
Oui.
Heureusement, vous êtes rentrée avant il y a 15 jours, donc vous avez eu le droit. Et vous avez fait la quarantaine, du coup ?
J'ai fait une quarantaine de sécurité.
Vous avez fait une quarantaine de sécurité en rentrant d'Italie ?
Oui, histoire de ne pas contaminer mes collègues. Si jamais il y avait un risque, j'ai préféré rester 15 jours à la maison.
Oui, parce que quand on travaille dans une maison qui vend des tomates, je suppose que vous voyagez tout le temps entre la France et l'Italie quand on est en poste en France.
On y est beaucoup, oui. On y est beaucoup, surtout l'été, on va voir la récolte qui se passe uniquement en été. Donc là, on va voir l'usine, on va voir comment les tomates sont transformées.
Écoutez, je ne peux que formuler des vœux pour que l'Italie sorte rapidement de cette crise sanitaire du Covid-19, ainsi que nous aussi, parce qu'on a peut-être une semaine de retard, mais on a l'impression que les courbes se suivent. Et c'est ce qui m'a amené à vous interroger ce matin sur la cuisine du placard, cette cuisine qu'on fait à la maison. Je disais, c'est peut-être la seule vertu intéressante de ce confinement qui se prépare chez nous.
Non, c'est pas la seule.
Ah bon, il y en a une autre ? Il n'y a pas que faire la cuisine en famille ?
Ah ben, je ne pense pas. Je pense que dans 9 mois, il y aura beaucoup de bébés.
Ah oui. Vous pensez ?
Et ça va être très joli, je pense.
Écoutez,
très important pour l'Italie.
Très important pour l'Italie, évidemment.
Parce qu'il y a un pays qui est en navire. Alors, je pense que c'est la bonne opportunité pour...
Je pense que ça va y aller.
Il m'avait semblé que les Italiens n'avaient pas besoin d'être confinés chez eux pour faire des bébés. Mais bon,
on peut faire autre chose dans le placard. Hein.
À côté du placard, si ça ne vous ennuie pas. Et en plus, je crains malheureusement malheureusement qu'il y ait beaucoup de, beaucoup de couples qui fassent chambre à part à cause du Covid. Qui se disent, si l'un des deux est touché, moi, j'ai pas envie de...
Moi, si je veux mourir, je veux mourir avec ma chérie Sylvia. Donc,
voilà. Hein, qui écoute certainement et qui dit, ça y est, quand même, il parle de moi après trois quarts d'heure d'émission. Alors, Laure Souche, je parlais de Mouti. Je voudrais que vous me disiez en un mot, c'est quoi la différence entre polpa et passata? Parce qu'on voit ça sur les boîtes...
Polpa, c'est la pulpe de tomate. En fait, c'est une tomate qui va être pelée, et partiellement épépinée et qui va être juste concassée en pulpe.
C'est ce qu'on appellerait une concassée de tomate.
Tout à fait. Donc, on a plusieurs textures. On a de la pulpe en morceaux ou de la pulpe un peu plus fine. Mm-hmm. Et la passata, en fait, c'est une tomate qui va être pelée et puis qui va être broyée, en fait, épépinée et broyée. Et on va avoir une purée de tomate, en fait, au final, un coulis ou une purée.
Et après, il y a une sauce. Enfin, on peut. Une passata liquide.
Une
on
passata
peut dire.
Liquide, ouais, c'est une purée ou un coulis de tomate. En France, on appelle beaucoup coulis.
Mais ce n'est que de la tomate fraîche, pas salée.
Ce n'est que de la tomate fraîche. On ajoute une petite pointe de sel.
Mais
très très peu, 0,2%.
Bon, dans la cuisine du restaurant étoilé de Denis, on se sert de ça ? On se sert des tomates en boîte ?
Je sais pas, toi, tu dis des tomates ou pas ?
Non, pardon, de Simonet, je veux dire.
Simonet.
Vous utilisez de la passata ?
C'est marrant parce qu'on a commencé cette collaboration avec Mouti il y a 2 ans. Ouais. Et on a voulu, parce que bien sûr que tout le monde imagine qu'on ne peut pas créer des choses gastronomiques autour d'une tomate en boîte. Et là, on a vraiment passé du temps à aller à découvrir, à trouver des recettes qui étaient gastronomiques. Et je pense que j'ai sorti quand même un des plats signature qu'on a en restaurant aujourd'hui, la tartine de tomate avec la glace à chaque pépin. Et
les gens, ils
sont quand même un peu bluffés. Et ils ne pensent pas qu'elle puisse être faite avec des tomates en conserve.
D'ailleurs, ceux qui nous ont rejoints un petit peu tard, je vous tiens, vous n'aurez qu'à réécouter en podcast l'émission si vous voulez la recette de tatin de tomate dans la première partie de Simonet Zanoni.
Hein. Okay, extraordinaire,
voilà, ça c'est fait. Mais maintenant, vous allez me donner plutôt une recette de risotto. Parce qu'on parle beaucoup de pâtes en Italie, mais on oublie que le nord de l'Italie, c'est plutôt le riz, hein, la vallée du Pô. Et donc, ce risotto que depuis le Piémont, la Lombardie, jusqu'à la Vénétie, toute cette vallée du Pô, on y mange du riz, hein, Simonet.
Bien sûr, on mange du riz, surtout c'est un produit qui, comme les cafés, comme les pâtes, est toujours dans le placard. Eh oui. Et la chose intéressante du riz, qui est vraiment, on peut le faire à tous les sauces. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de fin à l'imagination.
Comme les pâtes, c'est un féculent, donc on y met la sauce qu'on
et
veut.
On l'utilise un peu comme vide frigo ou vide placard. Moi, parfois, quand je fais des visites à la maison, je prends du riz, j'ouvre mon frigo, je vais garder ce que j'ai à l'intérieur et je décide de faire mon risotto qui va avec.
Bah alors aujourd'hui, dans le placard, vous avez de la polpa.
Hein, on a de la polpa.
De tomate. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, en tout cas, on fait risotto à la tomate. Alors, les choses importantes pour moi d'à respecter, c'est surtout la cuisson du riz. Alors, c'est des choses que les gens, parfois, on se trompe. Et si on utilise des carnaroli ou des riz, plutôt les violone nano, ça dépend aussi de la forme du riz.
Violone nano, ça violone c'est un autre... On le trouve moins
c'est
facilement que l'arborio ou que le carnaroli chez nous.
C'est un riz qui est plutôt vraiment qui est cultivé vraiment à côté de chez moi. Surtout
Vénétie,
c'est très...
Et en Vénétie, ouais, hein, Vénétie, oui.
Très important, c'est la cuisson du riz. Beaucoup de Français, comme beaucoup d'Italiens aussi, se trompent sur la cuisson de riz ou sur la cuisson de pâtes. Alors, ne poussez pas la cuisson jusqu'au bout. Arrêtez toujours la cuisson 3 voire 4 minutes avant.
Oui, mais attendez, Simonet, excusez-moi de vous interrompre. Moi, je fais beaucoup de risotto. On a peur. Parce que le moment où on doit arrêter, le grain est encore dur. Et en fait,
mais c'est justement là qu'il faut l'arrêter.
Mais c'est ça qui est difficile.
Si vous prenez la cuisson qui est vidonne sous la boîte, par exemple, vous avez une cuisson à 15 minutes. À 15 minutes, vous enlevez 3 minutes de cuisson, au voire 4 minutes de cuisson.
Ah, bah c'est comme les pâtes, hein. Il ne faut jamais cuire le temps qui est inscrit sur le paquet.
Oui, jamais.
Voilà. Toujours 2 minutes de moins, hein. On est d'accord.
Toujours toujours sauter les pâtes dans la sauce à la fin. Et les risotto, c'est pareil. Parce que les risotto, l'amidon qui est continu d'arriver a besoin du temps pour créer la côté crémeuse de le riz. Comme ça, à la fin, vous avez besoin d'ajouter.
Pour faire le liant de la sauce, quoi.
Tout à fait. Vous avez besoin d'ajouter moins de beurre. Et moi, des produits de la matière grasse pour lier votre risotto. Mmh.
Laura, vous aimez ce Violone Nano? Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce riz qui est plutôt vert chez vous?
Il absorbe plus de liquide, il gonfle un peu plus.
Ouais.
Un
donc
peu,
il va être plus.
C'est de la Vénétie, donc je suis partisane.
Un peu plus souple également, alors du coup, plus.
Il tient un peu moins bien la cuisson qu'un carnaroli.
Ah oui, d'accord.
Et surtout la cuisson al dente à la fin, c'est hyper important.
Alors, et est-ce qu'on fait chez vous. Moi, j'ai appris qu'on devait manteca. C'est-à-dire qu'on rajoute le beurre à la fin pour nourrir un peu le riz ?
tout à fait, c'est à la fin. C'est justement ça, c'est que le risotto a besoin de 2-3 minutes de repos pour pouvoir à la fin ajouter, parce que la température est obligée à descendre. Si vous montatez un risotto avec du beurre qu'il est à 90-95 degrés, le riz est trop chaud. Du coup, il n'y a pas de mantecazione. Le risotto, il a besoin de descendre en température, à une température qui fait entre 65-70 degrés, en manière qui est plus froid, et le beurre peut monter avec les parmesans que vous ajoutez à la fin.
Denis et moi aussi, il y a une recette que j'adore, qui est simple, et qu'on peut faire, qui peut être une recette du placard, parce que ce n'est pas des produits frais, c'est justement les pâtes cacio e pepe. Vous en parliez tout à l'heure.
Tout à fait.
Pouvez-vous nous dire en deux mots comment on fait ça?
Alors, il y a plusieurs différences par rapport à la cacio e pepe, comme pour la carbonara, par exemple, mais normalement, on utilise du pecorino râpé, et juste de l'eau cuisson.
C'est un fromage sec, mais de brebis.
Brebis, tout à fait. Hein? Ce n'est pas un fromage lait de vache, tout à fait.
D'accord, une top de brebis.
Donc, on lit nos pâtes avec l'eau de cuisson des pâtes et aussi les pecorino. Il n'y a pas de crème dans la cacio e pepe.
L'eau de cuisson des pâtes, comme dans la carbonara, en fait.
Comme dans la carbonara, tout
à fait. Ce sont les Français ont tendance à mettre de la crème alors que c'est interdit.
Alors, c'est pas que c'est interdit, c'est-à-dire que c'est notre façon de faire une cacio e pepe, mais la vraie,
normalement,
c'est écrite sous les premiers bouquins de cuisine en Italie, c'est celle-là.
Et du poivre noir concassé. Enfin,
beaucoup de poivre. Poivre noir sauvage, encore mieux,
les dames, elles font en face, comme ça.
Miam, miam.
Ça parle tout de suite, le cacio e pepe. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire
c'est le plus compliqué à faire. Attention,
c'est plus compliqué à faire.
Faire un vrai cacio e pepe, comme faire un vrai spaghetti vongolais, c'est vraiment de l'art. C'est très, très compliqué.
Trouver la bonne liaison, c'est un peu comme trouver la bonne liaison du risotto, comme il disait Simone. Mm. Et après, le risotto aussi, c'est une culture. C'est-à-dire qu'en Italie, on dit de manger un risotto al dente, mais en vérité, un riz, ça se mange cuit. Un risotto est riche en amidon, donc comme une pomme de terre qui est crue, c'est une pomme de terre qui est indigeste.
Mais c'est juste le point où ça bascule.
C'est juste trouver le point, mais pas beaucoup de gens arrivent à trouver le point où ça bascule.
Allez, une dernière recette, parce que le temps a passé très vite. Laura, une minute. On n'a pas du tout parlé des pois chiches. Pourtant, les pois chiches s'utilisent aussi.
Oui, oui.
Alors,
beaucoup
on les fait tremper la veille, comme les haricots.
Même un peu plus. Hein. Ils sont beaucoup plus durs. Et ils nécessitent un peu plus de cuisson aussi. Donc, ils doivent être tendres.
On les cuit avec bouquet garni, oignons, ail.
Oui, avec ce qu'on a envie.
Comme les haricots, un peu.
Oui. Et une recette que j'adore, c'est les chicheri e tria, c'est-à-dire c'est une recette du sud, surtout des Pouilles, de la Basilicata. Et c'est comme la pasta e fagioli, on fait une crème de pois chiches et on met aussi des pois chiches entiers et on met des pâtes. Et souvent, les pâtes, c'est des pâtes frites. Mm-hmm. Une partie, voilà, frite. Oui.
Bon, d'accord.
Moi, je les fais avec des pâtes normales,
mais
à part. Et voilà, c'est très très bon, toujours avec de l'huile d'olive qui a.
C'est un peu un houmous italien, quoi. Oui, une sorte de purée.
C'est une purée, c'est une bonne purée.
À l'huile d'olive,
mais
quand même.
Diluée et comme une.
Un peu plus souple.
Un peu plus souple.
Bon, vous savez quoi, vous m'avez presque donné envie de m'enfermer en Italie. Non, je pense à vos familles qu'on embrasse très fort, qui sont confinées en Italie. Au moins, comme on le disait, ils font de la cuisine, de la bonne cuisine, ils ne se laissent pas abattre, les Italiens. Ils savent cuisiner, ils le montrent dans ces temps troublés. Merci Simone Zanoni d'être venue nous voir avec vos bonnes recettes. Merci Denis Imbrosi de même.
Grâce à toi.
Je souhaite que tout le monde aille bien chez vous, que tout le monde s'en sorte, la Rozzavan aussi. Voilà, sans trop de dommages. Merci Laure Souche d'être venue nous apporter quelques boîtes de tomates. Alors, et puis je vous remercie, vous qui nous écoutez, d'être venu faire votre marché avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 10h et vous pourrez faire votre marché de conseils et d'idées ici. Bon dimanche, faites attention à vous et faites attention aux autres. Dans ces temps un petit peu troublés, tout le monde doit faire attention à son entourage et tout ira bien. À dimanche prochain.
Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.